La chronique santé.
Chaque semaine, nous prenons soin de votre santé avec la Fondation DHCL, les Hospices Civils de Lyon, et en compagnie, pour la quatrième fois, du professeur Gilles Rode, qui est chef du service médecine physique et réadaptation. Bonjour.
Bonjour.
Nous nous intéressons à l'après-AVC. Alors, parfois, il y a des AVC que l'on appelle légers. Quelle est la différence avec un AVC qui ne le serait pas ?
Alors, ce sont des AVC à la suite desquels les patients ne conservent pas de déficit moteur, ni de déficit sensoriel, mais qui peuvent conserver des déficits cognitifs mineurs. Leur nombre augmente car il s'agit souvent d'AVC pour lesquels les traitements mis en place, thrombolyse et thrombectomie, ont été très efficaces. Ce sont des patients qui sont rentrés à domicile après une semaine d'hospitalisation en neurologie et qui, dans les 6 mois qui suivent la survenue de l'AVC, vont se plaindre de déficit de mémoire, de déficit d'attention. En résumé, souvent les patients expriment le fait que la vie d'avant n'est plus. La vie actuelle est différente de la situation antérieure.
Avec une difficulté quand même à définir ces troubles-là, ce qu'il se passe pour eux ?
Avec un sentiment effectivement de difficulté, un manque de sécurité de ses performances. Il en résulte souvent d'ailleurs une modification de l'humeur, avec parfois une anxiété, voire
donc,
des réactions dépressives.
Il peut y avoir donc une prise en charge psychologique aussi.
Et souvent, le patient ne va pas spontanément se plaindre de ses difficultés. C'est ce qu'on appelle souvent le handicap invisible. Et il y a une prise de conscience au niveau national, puisque se développent maintenant des consultations spécialisées post-AVC. Une consultation a été ouverte aux Hospices Civils de Lyon, avec un financement de l'ARS, ciblée justement sur le dépistage de ces déficits cognitifs.
Donc il y a 3 étapes, c'est ce que vous m'avez expliqué. Il faut d'abord accompagner le patient pour comprendre ce qui lui arrive.
Alors, il faut déjà faire un diagnostic précis de ces déficits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dispose de batteries de tests neuropsychologiques qui permettent très précisément de quantifier ces déficits de mémoire, ces déficits d'attention, ces déficits de raisonnement ou de planification, ce qu'on appelle les fonctions exécutives. On peut également mesurer le retentissement psychologique, tant au niveau de l'anxiété, de la dépression, que le retentissement professionnel. Et effectivement, le premier point, c'est de bien expliquer ces déficits au patient et à sa famille, afin qu'ils ne soient pas interprétés comme une réaction psychologique consécutive à l'accident vasculaire cérébral.
Alors, professeur Gilles Rode, la deuxième étape, ça va être ensuite d'aider le patient à accepter ce qui lui arrive.
Alors, lui expliquer, effectivement, et puis mettre en place, le cas échéant, des rééducations cognitives, par exemple de la mémoire verbale, si nécessaire, de l'attention, parce qu'il existe aujourd'hui des techniques de rééducation cognitive qui sont effectivement très efficaces. Troisièmement, c'est prendre en charge le retentissement psychologique, s'il y a un syndrome anxio-dépressif, et puis aussi mettre en place des mesures d'accompagnement sur le plan professionnel, si ce patient est en difficulté. En lien avec la médecine du travail et si nécessairement, éventuellement, en lien avec la maison départementale des personnes handicapées pour que cette personne bénéficie d'une reconnaissance et effectivement d'un emploi qui soit adapté à ses nouvelles possibilités.
Est-ce qu'aujourd'hui, professeur Rode, on arrive à faire disparaître tous ces symptômes ou est-ce qu'on peut vieillir et avoir ces symptômes tout au long de sa vie ?
Un point important de votre question, l'accident vasculaire cérébral, c'est un accident qui survient dans un contexte qu'on appelle souvent la maladie cardio-neurovasculaire en lien avec des facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, le diabète, le tabac, l'hypercholestérolémie et la sédentarité. Un des enjeux importants chez ces patients, c'est d'une part de les aider à avoir une bonne observance thérapeutique pour les traitements pour éviter la récidive d'un accident vasculaire cérébral.
Donc là, vous parlez de traitement type médicamenteux.
Tout à fait. Et d'autre part, que ces patients prennent conscience de la nécessité de modifier leur hygiène de vie par une activité physique, éviter la sédentarité, le surpoids, dans le but justement d'éviter une récidive de ce type d'accident.
Ma question, elle portait sur le fait que vous définissez une forme d'AVC qui serait donc un AVC léger, avec des troubles moins importants que des troubles moteurs ou cognitifs forts. Est-ce que, parce que ces troubles sont légers, on s'en débarrasse plus facilement et qu'on peut retrouver un état, l'état d'avant l'accident ?
Alors, c'est une question qui est difficile parce que on ne peut répondre que par des études de cohorte à long terme. Et aujourd'hui, le recul est insuffisant, notamment chez les patients qui ont bénéficié des traitements par thrombectomie. Quand on suit des patients en consultation sur un certain temps, souvent les patients se plaignent, même à distance, de la persistance de difficultés. Mais comme ils en ont conscience, ils ont mis en place des stratégies de compensation qui sont efficaces et au final, le résultat est très satisfaisant sur leur vie personnelle.
Bon, nous avons compris tout au long de ces quatre rendez-vous, professeur Gilles Roth, qu'il y avait beaucoup de choses à faire concernant l'après-AVC, que vous y œuvrez au sein des DHCL. Merci beaucoup.
Merci.
La chronique santé, avec la Fondation Hospice Civil de Lyon et le soutien de Sanofi.